Chapitre 2 Le chemin de l'homme pieux dans un jour de ruine. Le croyant instruit dans les pensées de Dieu ne peut qu'admettre que ce qui passe pour être l'Église de Dieu devant les hommes ne ressemble en rien à l'Église de Dieu telle que présentée dans l'Écriture. Ce grave éloignement de la parole de Dieu montre clairement que l'intention de Dieu pour l'Église durant son séjour dans un monde où Christ est absent, a été ruiné dans les mains de l'homme. Peu nombreux sont ceux qui nieraient que nous vivons dans un temps de ruine. Il est cependant de la première importance de comprendre clairement ce que nous entendons lorsque nous parlons de la ruine de l'Église. Nous devons rappeler que dans l'Écriture, l'Église est considérée de deux manières. D'un côté, elle est présentée selon les conseils de Dieu. D'un autre côté, elle est vue en rapport avec la responsabilité de l'homme. Sous le premier aspect, elle est présentée dans l'Écriture comme fondée sur Christ, le Fils de Dieu, et est composée de tous les vrais croyants, et est destinée à être présentée à Christ, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme telle, elle est le résultat du travail de Christ lui-même, et les portes du Hadès ne peuvent prévaloir contre elle. Aucune ruine ne peut toucher l'œuvre de Christ, ni mettre de côté les conseils éternels de Dieu pour Christ et pour l'Église. Sous le second aspect, l'Église est vue comme placée dans la responsabilité d'être témoin pour Christ pendant le temps de son absence et de présenter la grâce de Dieu à un monde dans le besoin. Hélas, l'Église a complètement failli dans l'exercice de cette responsabilité. Par manque de dépendance à l'égard du Seigneur, de soumission à l'Esprit et d'obéissance à la parole, le peuple de Dieu s'est divisé et a été dispersé. Et le manque de vigilance a abouti à une vaste profession embrassant croyants et incroyants. Le résultat est que ce qui passe devant le monde pour être l'Église est loin de représenter la gloire de Christ et est au contraire un déni de la nature, de l'amour, de la sainteté et des affections de Christ. Ainsi, le témoignage de l'Église sur la terre a été ruiné. Le fait que nous devons parler d'une Église professante, qui est visible, et d'une Église spirituelle composée de tous les vrais croyants qui est invisible, suffit à montrer combien la ruine est complète. Si donc nous parlons de vivre dans un jour de ruine, nous voulons dire que le sort qui nous est échu est de vivre dans un jour où le témoignage de l'Église à un Christ absent a été ruiné. Dans les lettres aux sept églises dans l'Apocalypse, nous avons un aperçu prophétique de l'histoire de l'Église sur la terre, considérée comme le témoin responsable pour Christ. Et la défaillance progressive de l'Église en matière de responsabilité y est prédite avec une précision divine par le Seigneur lui-même, en commençant par l'abandon du premier amour et se terminant par un état si nauséabond pour Christ que l'Église finit par être vomie de sa bouche. L'Écriture, cependant, donne davantage de lumière au sujet du jour de ruine. Dans cette seconde épître à Timothée, non seulement la ruine est prédite, mais le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, donne aussi des instructions très précises aux fidèles sur la manière d'agir quand la ruine est là. Aussi sombre que soit le jour présent, aussi grande que soit la ruine, le peuple de Dieu n'est pas laissé sans direction divine. La miséricorde de Dieu a tracé un chemin pour les siens dans un jour de ruine. Nous pouvons manquer de foi en Dieu et du dévouement à Christ nécessaire pour emprunter ce chemin. Néanmoins, celui-ci est tracé dans la parole de Dieu pour l'obéissance de la foi. Ainsi, nous arrivons à la conclusion que deux choses sont nécessaires pour prendre le chemin de Dieu avec intelligence au milieu de la ruine. Tout d'abord, il est essentiel d'avoir une certaine connaissance de la doctrine de Paul, qui comprend à la fois la vérité de l'Évangile et la vérité de l'Assemblée. D'autre part, il faut un bon état spirituel. Sans une certaine connaissance de l'Église, telle que présentée dans l'Écriture, il est impossible d'apprécier l'étendue de la ruine. Et sans un bon état spirituel, le croyant n'est guère disposé à prendre le chemin que Dieu a tracé au milieu de la ruine. Paul suppose évidemment que celui à qui il écrit connaît bien sa doctrine. Dans les chapitres 1 et 2, il fait référence à ce que Timothée avait entendu de lui. Chapitre 1, verset 13, et chapitre 2, verset 2. Et dans le chapitre 3, il dit « Tu as pleinement compris ma doctrine » au verset 10. Il n'y a donc pas d'exposé doctrinal de la vérité de l'Église dans cette seconde épître. Cette vérité est pleinement présentée par l'apôtre dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, la première épître aux Corinthiens et la première épître à Timothée. Le chemin de Dieu pour nous dans un jour de ruine et l'état spirituel nécessaire pour prendre ce chemin sont présentés dans ce chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée. Si nous voulons répondre à la pensée de Dieu en ce jour de défaillance, nous ferons bien d'étudier avec prière ce passage important. Les vérités de ce chapitre peuvent être vues dans l'ordre suivant. Au verset 1 à 13, nous avons l'état spirituel nécessaire pour discerner et prendre le chemin de Dieu pour nous au milieu de la défaillance de la chrétienté. Au verset 14 à 18, nous avons un bref aperçu du courant du mal qui a conduit à la corruption de la chrétienté. Au verset 19 à 22, nous avons la ressource du fidèle et le chemin de Dieu pour l'individu au milieu de la ruine. Et enfin, au verset 23 à 26, nous avons l'esprit dans lequel il faut faire face à ceux qui soulèvent de l'opposition contre le chemin de Dieu. Versets 1 à 13, l'état spirituel nécessaire pour le chemin de Dieu dans un jour de ruine. Citation de l'Écriture. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Fin de citation. La grâce spirituelle est la première grande nécessité dans un jour de faiblesse. L'exhortation du premier verset est donc « Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus ». Tenir contre la marée montante du mal, emprunter un chemin que le Seigneur a tracé pour les siens au milieu des corruptions de la chrétienté, et continuer inébranlablement à marcher dans ce chemin, en dépit de la débâcle, de l'opposition et des désertions, tout cela demande une grande grâce, la grâce qui est dans le Christ Jésus. Quelle que soit l'opposition au chemin de Dieu, quelles que soient les difficultés pour y persévérer, quelles que soient les tentations de s'en détourner, la grâce du Seigneur est suffisante pour rendre le croyant capable de surmonter toute opposition, de s'élever au-dessus de toutes les difficultés, de résister à toute tentation et d'obéir à sa parole et de répondre à sa pensée. Comme quelqu'un a dit, quel que soit le besoin, sa plénitude est la même, pas diminuée, toujours accessible et gratuite. La grâce spirituelle est la première chose nécessaire pour des hommes fidèles en un jour d'infidélité. En outre, la grâce dont parle l'apôtre est plus qu'un esprit gracieux. Elle implique qu'en Christ ressuscité et exalté, du premier jour de l'Église sur la terre jusqu'au dernier de son séjour ici-bas, Il y a toute ressource pour rendre l'homme de Dieu capable de maintenir sa vie de témoignage et de service sans faire appel à aucun des expédients de l'homme que tant de gens ont adoptés dans un jour de déclin. En écrivant aux Corinthiens, l'apôtre peut remercier Dieu pour la grâce de Dieu qui leur a été donnée dans le Christ Jésus. Et tout de suite, il montre que cette grâce est la parole d'enseignement, la connaissance et les dons avec lesquels ils avaient été enrichis en Christ. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7. Chaque exhortation du chapitre ne fera qu'approfondir notre sentiment du besoin de la grâce qui est dans le Christ Jésus si nous voulons répondre à la pensée de Dieu. Deuxièmement, non seulement la grâce est nécessaire, mais les fidèles doivent aussi posséder la vérité s'ils veulent être remplis de la pensée de Dieu dans un jour de déclin et être à même d'instruire les autres. De plus, la vérité nécessaire dans un jour de ruine n'est pas seulement la vérité trouvée dans l'ensemble de l'Écriture, mais tout spécialement la vérité telle que communiquée par l'apôtre devant beaucoup de témoins. Dans un jour de ruine, les écrits apostoliques deviennent un test très net par lequel on peut discerner les hommes fidèles. L'apôtre Jean peut dire: Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. 1 Jean 4, verset 6. Afin donc que nous puissions en tout temps posséder la vérité, Timothée est instruit à commettre les choses entendues de l'apôtre à des hommes fidèles qui, à leur tour, seront capables d'instruire les autres. C'est la manière de Dieu que la vérité consignée dans les écrits apostoliques soit transmise à ceux qui sont capables d'enseigner les autres. La chair qui s'estime autosuffisante et est pleine de sa propre importance peut se flatter de pouvoir se passer de l'aide d'autrui. Mais s'il est vrai que Dieu est souverain et qu'il peut enseigner directement à partir de sa parole, sa manière habituelle est de nous garder mutuellement dépendants les uns des autres, pour recevoir comme étant ceux qui ont à apprendre et pour communiquer à d'autres la vérité et la lumière que nous avons reçue. En plus, il est important de voir que ce que nous transmettons n'est pas une autorité officielle ou une position officielle, mais c'est la vérité. Timothée n'avait ni mission ni pouvoir de transmettre à un individu ou à une classe d'individus le droit officiel et exclusif de prêcher. C'était la vérité révélée, garantie de l'erreur par le moyen de témoins, qui devait être transmise à d'autres. À la lumière de ce passage de l'Écriture, nous pouvons bien nous demander dans quelle mesure nous répondons à nos responsabilités de transmettre à d'autres le précieux héritage de vérité que nous avons appris de la part d'hommes fidèles. Maintenir la vérité et la transmettre à d'autres n'est possible que si nous nous fortifions dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Troisièmement, maintenir la vérité dans un jour de déclin général implique de souffrir. Naturellement, nous reculons devant la souffrance. C'est pourquoi Timothée est exhorté, et avec lui tous ceux qui désirent être fidèles à Christ, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comparativement à Paul, la part de souffrance que nous pouvons être appelés à prendre sera petite. Mais aujourd'hui, partout où un saint refuse l'erreur et tient pour la vérité, il doit être prêt, dans une certaine mesure, à faire face à de l'opposition, verset 25, à de la persécution, chapitre 3, verset 12, à des désertions, chapitre 4, verset 10, et à de la méchanceté, chapitre 4, verset 14, et, comme dans le cas de l'apôtre, ces choses peuvent même venir de frères. Ceci implique de la souffrance. Et quand nous souffrons injustement, nous sommes naturellement enclins à rendre la pareille. Il nous est donc rappelé de prendre notre part de souffrance, non pas comme un homme charnel, mais comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat obéit à son capitaine et agit comme lui. Christ est le grand chef, ou capitaine, de notre salut. Et il a atteint sa place de gloire par des souffrances. Et il nous a laissé l'exemple parfait de souffrance dans la patience. Car, quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Agir d'une manière si contraire à la nature exige en effet que nous soyons fortifiés dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Le Seigneur Jésus est à la place du pouvoir suprême, et au temps déterminé, il exercera le pouvoir par lequel il est capable d'assujettir tous les ennemis sous ses pieds. Toutefois, c'est encore le jour de la grâce. Le jour du jugement pour les ennemis de la grâce n'est pas encore venu. Nous avons donc besoin, non de puissance pour écraser nos ennemis, mais de grâce pour prendre notre part de souffrance. Étienne, en présence de ses ennemis qui grinçaient des dents contre lui et le lapidaient, fixait ses regards vers le ciel, vers Jésus debout à la droite de Dieu. Mais, quoique Jésus fût le Seigneur établi au pouvoir suprême, en général, il n'agit pas en puissance pour écraser les ennemis de ses serviteurs. Il n'a pas donné non plus à Étienne le pouvoir d'écraser ses ennemis. Il a fait ce qui est en parfait accord avec le jour de grâce. Il a donné la grâce par laquelle Étienne s'est tellement fortifié dans la grâce qui est dans le Christ Jésus qu'il a été en mesure de prendre sa part des souffrances et, comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'a pas menacé ou injurié ses persécuteurs. Au contraire, il a prié pour eux et a remis son esprit au Seigneur. De la même manière, en son temps, Paul s'est tellement fortifié dans la grâce qui est dans le Christ Jésus qu'il a enduré la souffrance pour l'amour de Christ et a remis sa vie, son bonheur, son tout, à Christ en vue de ce jour-là. Chapitre 1, verset 12. Quatrièmement, si nous sommes prêts de tout cœur à accepter le chemin de Dieu en un jour de ruine, nous aurons besoin de nous garder d'être empêtrés dans les affaires de cette vie. L'apôtre ne suggère pas de ne pas participer aux affaires de cette vie, ni que nous soyons nécessairement appelés à renoncer à nos affaires terrestres. Dans d'autres passages de l'Écriture, il réfute une telle pensée, car il nous enjoint expressément de travailler de nos propres mains pour fournir ce qui est honnête. Et il peut dire de lui-même : Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins. Acte 20, verset 34. Mais il nous met en garde contre le fait de laisser les affaires de cette vie prendre notre temps, absorber nos énergies et engager ainsi complètement nos pensées, au point de nous empêtrer dans un filet et de ne pas nous laisser libres d'accomplir la volonté du Seigneur. Le bon soldat de Jésus-Christ est celui qui cherche non pas à plaire à lui-même ou même aux autres, mais à plaire d'abord et avant tout à celui qu'il a enrôlé pour être soldat. En toute fidélité et loyauté à celui qui nous a choisis pour être soldats sous sa direction, et en ne cherchant que son plaisir à lui, nous refuserons toute organisation humaine qui implique la direction par quelque autorité humaine. Échapper aux embarras de cette vie et être loyal au chef de notre salut ne sera possible que dans la mesure où nous nous serons fortifiés dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Cinquièmement, en utilisant l'image des jeux publics, l'apôtre dit « De même si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. » Dans le domaine spirituel aussi, la couronne ne sera pas accordée à une grande activité, ni selon la quantité de service, mais selon la fidélité dans le service. La couronne est donnée à celui qui combat selon les lois. On pourrait faire valoir que, dans un jour de grande faiblesse, chacun doit adopter les méthodes qu'il pense les plus appropriées pour accomplir son service. Pour répondre à de tels arguments, nous sommes spécialement avertis que, dans un jour de ruine, il nous incombe encore de combattre selon les lois. Ainsi, l'introduction de méthodes charnelles, de moyens humains ou d'expédients mondains dans le service du Seigneur est condamnée. Servir selon les principes de l'Écriture exigera que nous nous soyons fortifiés dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Sixièmement, le fidèle serviteur doit être prêt à travailler avant de jouir des fruits. Ce n'est pas le temps de se reposer, mais celui de travailler. Le temps de la récolte est à venir. Nous sommes souvent impatients de voir des fruits, mais il est préférable de persévérer dans notre travail, sachant que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre œuvre de foi et notre travail d'amour. Le fidèle serviteur attend d'entendre le « Bien, bon et fidèle esclave » Matthieu 25, versets 21 et 23, de celui auquel il cherche à plaire. Et alors seulement il recevra la couronne après avoir combattu selon les lois, et alors il jouira des fruits après avoir travaillé. Il ne suffit pas toutefois d'avoir ces exhortations et d'admettre leur bien fondé sur un plan général. Si elles doivent gouverner nos vies, nous devons considérer ce que dit l'apôtre. Et tandis que nous pèserons ces choses, le Seigneur nous donnera de l'intelligence en toutes. Nous ferons peu de progrès dans l'intelligence divine, à moins de prendre le temps de méditer. L'apôtre peut placer certaines vérités devant nous, mais il ne peut pas nous donner l'intelligence. C'est le Seigneur seul qui peut la donner. C'est ainsi que nous lisons que le Seigneur a non seulement ouvert les Écritures aux disciples, Luc 24, versets 27 et 32, mais qu'il leur a ouvert l'intelligence pour entendre les Écritures, Luc 24, verset 45. De plus, comme encouragement à mettre en pratique ces instructions, nos regards sont dirigés vers Christ. Nous devons nous souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, de la semence de David selon mon évangile. Ce n'est pas seulement le fait de la résurrection dont nous devons nous souvenir, mais de celui qui est ressuscité, et qui il a été comme homme de la semence de David. Sommes-nous appelés à souffrir dans le chemin de la fidélité? Alors souvenons-nous que notre part de souffrance est petite en comparaison des souffrances que lui a dû rencontrer. Si à cause d'un peu de fidélité nous nous trouvons abandonnés, objets d'opposition et d'insultes, y compris par beaucoup de chrétiens, souvenons-nous que Christ, dans son chemin parfait, a toujours été fidèle à Dieu et allait de lieu en lieu faisant du bien aux hommes. Et pourtant, à cause de sa fidélité, il a toujours été dans l'opprobre. Il pouvait ainsi dire « Car à cause de toi j'ai porté l'opprobre » Psaume 69, verset 7. Et encore « Et ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour » Psaume 109, verset 5. Si, dans le chemin du service, nous sommes exhortés à endurer les souffrances en cherchant à ne plaire qu'à celui qui nous a enrôlés, souvenons-nous que Christ pouvait dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent » Jean 8, verset 29. Rien ne pouvait faire sortir le Seigneur du chemin de l'obéissance absolue au Père. Il travaillait en ayant en vue le fruit de son labeur, car il pouvait dire « Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour » Jean 9, verset 4. Il a maintenant achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire, la souffrance et les peines sont passées, et nous le voyons ressuscité et couronné de gloire et d'honneur pour y recevoir en résurrection le fruit du travail de son âme. Souvenons-nous donc de Jésus-Christ dans le chemin, avec la mesure de souffrance et de peine qui s'y trouve. Non seulement nous avons le modèle parfait du Seigneur Jésus dans son chemin de souffrance et de labeur, mais nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui, dans son dévouement à faire connaître l'Évangile, participait dans une mesure considérable aux souffrances de la vie de Christ. Au lieu d'être à l'honneur dans ce monde, il a souffert jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il a ainsi suivi les traces de son maître, qui a été accusé par le monde religieux de son temps d'être un mangeur et un buveur, d'avoir un démon et d'être un pécheur. Luc 7, verset 34, Jean 8, verset 48, Jean 9, verset 24. Aucune persécution de la part du monde ne peut empêcher la bénédiction d'atteindre les élus de Dieu. Le monde peut lier le prédicateur, il ne peut pas lier la parole de Dieu. En effet, l'inimitié du monde qui liait Paul est seulement devenue une occasion d'apporter l'Évangile devant les grands de la terre et en même temps d'écrire en prison les épîtres qui développent si merveilleusement notre appel. Nous pouvons ne pas être prêts à endurer beaucoup de souffrances ou d'insultes, mais l'apôtre peut dire « J'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Quelqu'un a dit « Combien sont peu nombreux, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ceux qui oseraient prononcer ces paroles comme étant l'expérience de leur propre âme. Néanmoins, nous pouvons le désirer ardemment dans notre mesure, mais cela suppose chez le croyant non seulement une bonne conscience et un cœur brûlant d'amour, mais aussi un jugement complet de soi-même et Christ demeurant dans le cœur par la foi. » Pensée de William Kelly. Les élus de Dieu obtiendront certainement le salut et atteindront la gloire. Néanmoins, sur le chemin de la gloire, ils trouveront rangée contre eux toute la puissance de Satan, l'inimitié du monde et les corruptions de la chrétienté. Ce sera ainsi par l'épreuve et la souffrance qu'ils atteindront la gloire. Pour amener les élus à travers de telles circonstances, il faudra leur apporter toute la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et ce sera, comme souvent, par le moyen de ses fidèles serviteurs. Pour nous encourager à nous souvenir de Jésus-Christ et à suivre l'exemple de l'apôtre en acceptant le chemin de la souffrance et du labeur, il nous est rappelé un dicton certain : si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes appelés à endurer tout, même jusqu'à la mort, n'oublions pas que nous sommes en mesure de laisser la vie présente s'écouler à la lumière de la grande vérité que, étant morts avec Christ, nous vivrons certainement avec lui. Et non seulement nous vivrons avec lui, mais si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Il y a toutefois un avertissement solennel. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le reniement ici n'est pas une chute isolée, si honteuse soit-elle, comme celle de l'apôtre Pierre, mais c'est le chemin continu de ceux qui, quoi qu'il en soit de leur profession, nient la gloire et l'œuvre du Fils. Ils seront reniés, comme il a été dit en vérité, Dieu cesserait d'être Dieu s'il acquiesçait au déshonneur de son Fils. Au milieu de toute l'infidélité de la chrétienté envers Christ, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ainsi, les premiers versets de ce grand passage démontrent clairement que, pour discerner le côté de Dieu dans un jour de ruine, et par-dessus tout, pour marcher fidèlement dans cette voie en présence des désertions, de l'opposition et de la méchanceté, ce qu'il faut n'est pas la puissance divine pour écraser nos ennemis, mais la grâce qui est dans le Christ Jésus qui nous rendra capables de prendre notre part des souffrances. La grâce qui cherche avec un œil simple à plaire à celui qui nous a enrôlés. La grâce qui nous conduira à combattre selon les lois, en refusant toutes les méthodes charnelles et mondaines. Et la grâce qui est prête à du labeur patient dans l'attente des fruits de ce labeur. En outre, nous aurons besoin non seulement de la grâce de la part du Seigneur dans la gloire, mais de l'intelligence spirituelle que le Seigneur seul peut donner, et par-dessus tout, d'avoir le Seigneur lui-même devant nous comme notre seul objet, un homme véritable de la semence de David, mais un homme vivant dans la gloire au-delà du pouvoir de la mort. Versets 14 à 18. Le développement du mal qui a conduit à la ruine de l'Église comme maison de Dieu. Dans les premiers versets du chapitre, nous avions devant nous l'état spirituel qui devrait caractériser les hommes fidèles et les rendre capables de discerner le grave écart d'avec la vérité, ainsi que le chemin de Dieu au milieu de la corruption. Avant de placer devant nous le chemin de Dieu, l'apôtre, dans les versets 14 à 18, touche brièvement quelques-unes des choses mauvaises qui ont amené la ruine de l'Église responsable. Citation de l'Écriture. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans profit, et pour la subversion des auditeurs. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquels sont Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Fin de citation. Le premier chapitre nous a appris que tous ceux en Asie s'étaient détournés de l'apôtre. Cela implique que l'Église ne s'était pas maintenue à la hauteur de l'appel céleste. Le premier pas du déclin de l'Église a été l'abandon de son caractère céleste. C'est toujours la vérité la plus élevée qui est abandonnée la première. Cet abandon de l'appel céleste a laissé la porte ouverte à l'intrusion du monde et de la chair. Au verset 14 de ce chapitre, le serviteur de Dieu fait référence à la première manifestation de la corruption. Il fait remonter la ruine aux spéculations de l'esprit humain qui conduisent aux disputes de mots sans aucun profit et qui laissent aller à la dérive la parole de la vérité. Il nous avertit contre les disputes de mots, et nous ramène non seulement à la parole de la vérité, mais à la parole de la vérité découpée droit ou exposée justement. Toute l'Écriture est la parole de la vérité. Et pourtant, quel désastre peut être produit si l'on donne une interprétation particulière ou si l'on utilise des textes hors de leur contexte et qu'ainsi, comme le dit Pierre, on tord les Écritures à sa propre destruction. Nous sommes ensuite avertis d'un déclin supplémentaire. Les spéculations sans profit du verset 14 allaient dégénérer en discours vains et profanes. Les discours profanes traitent des choses divines comme si elles étaient vulgaires, faisant peu de cas des choses sacrées. Ils sont vains en ce que les arguments utilisés sont dénués de substance. De plus, nous sommes avertis que ces discours vains et profanes iront plus avant. Dans la mesure où la masse de la profession chrétienne est concernée, Paul ne présente pas l'espérance que ce mouvement de déclin sera stoppé de manière permanente. Au contraire, nous sommes expressément avertis que le mal ira plus avant. En outre, nous sommes avertis qu'avec l'augmentation des discours vains et profanes, il y aura une augmentation de l'impiété. Les paroles profanes conduisent à une marche impie. Tenir ou propager des erreurs rabaissera, comme toujours, la conduite extérieure. Le relâchement dans la doctrine conduit au relâchement moral. Un autre résultat terrible de l'augmentation des discours profanes et de l'impiété sera la destruction des vérités vitales du christianisme dans les pensées des hommes, car nous lisons que la parole de ces discoureurs profanes se répandra comme une gangrène qui ronge et détruit les tissus vitaux du corps. Ainsi, pas après pas, avec une habileté divine, l'apôtre retrace le progrès du mal qui a corrompu la chrétienté. Premièrement, des disputes humaines sur des mots sans profit. Deuxièmement, des disputes sur des mots dégénérant en discours vains et profanes. Troisièmement, ces discours vains et profanes augmentent toujours, puis conduisent à l'impiété. La conduite extérieure de la profession chrétienne constamment rabaissée au niveau où les hommes agissent sans crainte de Dieu. Quatrièmement, la marche impie tendant à détruire les grandes vérités vitales du christianisme et à en dépouiller les hommes. Pour montrer l'effet de cette dégénérescence et l'état mauvais dans lequel la chrétienté tomberait, l'apôtre donne deux exemples solennels, Hyménée et Philète, deux hommes au sein de la profession chrétienne enseignaient l'erreur. Au lieu de découper droit la parole de la vérité, ils s'étaient écartés de la vérité. Ils enseignaient que la résurrection était déjà du passé. Apparemment, ils ne niaient pas la résurrection. Il semble qu'ils l'aient spiritualisée et prétendaient que, d'une manière ou d'une autre, elle avait déjà eu lieu. Une telle erreur ne doit pas être écartée à la légère comme une folle spéculation de fanatiques irresponsables. Aussi déraisonnable que soit cette erreur, l'apôtre prévoyait qu'elle corromprait l'Église professante et agirait comme une gangrène. Il n'est pas non plus difficile de voir qu'elle renverserait la foi de ceux qui s'imprégnaient de cette erreur. Si la résurrection est déjà passée, il est évident que les saints ont atteint leur condition finale alors qu'ils sont encore sur la terre, et il en résulte que l'Église cesse d'attendre la venue du Seigneur, perd la vérité de sa destinée céleste et abandonne son caractère d'étranger et de pèlerin. Ayant perdu son caractère céleste, l'Église s'installe sur la terre, prend sa place comme faisant partie du système, cherchant à réformer et gouverner le monde. Arrivé à cet aboutissement, le travail du diable est accompli et il ne poussera plus ses instruments à promouvoir cette erreur particulière. Aujourd'hui, il se peut que personne ne tente d'enseigner que la résurrection est déjà passée. Mais les résultats de cette erreur extravagante subsistent et se voient dans leur plein développement dans la profession chrétienne. La constitution, l'administration, les efforts religieux, le zèle missionnaire de la chrétienté professante tiennent pour acquis que l'Église est tout à fait chez elle et en train de faire la tâche qui lui revient, à savoir de chercher à réformer le monde et à civiliser les païens afin de faire de ce monde un endroit respectable et heureux. Versets 19 à 22 Le chemin de Dieu pour l'individu dans un jour de ruine. Citation de l'Écriture. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fin de citation. Après avoir prédit l'état mauvais dans lequel la chrétienté tomberait, l'apôtre nous instruit maintenant sur la manière d'agir au milieu de la ruine. Avant de le faire, il place devant nous deux grands faits pour la consolation de nos cœurs. Tout d'abord, malgré toute la grandeur de la défaillance de l'homme, le solide fondement de Dieu demeure. Le fondement, ou la fondation, est l'œuvre de Dieu, quelle que soit la forme que puisse prendre ce travail, qu'il s'agisse du fondement dans l'âme, ou du fondement de l'Église sur la terre par le moyen des apôtres comme instrument et par la venue de l'Esprit-Saint. Aucune défaillance de l'homme ne peut mettre de côté le fondement que Dieu a posé, ni empêcher Dieu d'achever ce qu'il a commencé. Deuxièmement, pour notre réconfort, il nous est dit « Le Seigneur connaît ceux qui sont siens ». Et, comme quelqu'un l'a dit, cette connaissance du Seigneur n'est rien moins qu'une connaissance de cœur à cœur, une relation entre le Seigneur et ceux qui sont siens. La confusion est devenue si grande, les croyants et les incrédules sont mêlés si étroitement que, quant à la masse, nous ne pouvons vraiment pas dire qui est au Seigneur et qui ne l'est pas. Dans un tel état, quelle consolation de savoir que ce qui est à Dieu ne peut pas être mis de côté et que ceux qui sont au Seigneur ne peuvent pas être perdus en définitive, même s'ils sont cachés dans la masse. L'œuvre de Dieu et celle du Seigneur seront mises en lumière en ce jour-là, auquel l'apôtre fait allusion à plusieurs reprises au cours de cet épître. Chapitre 1, verset 12 et 18, chapitre 4, verset 8. Après avoir consolé nos cœurs quant au caractère permanent de l'œuvre de Dieu et quant à la sécurité de ceux qui sont au Seigneur, le serviteur de Dieu instruit l'individu sur la manière d'agir au milieu des corruptions de la chrétienté. Après le départ des apôtres, le déclin s'est rapidement établi et a continué tout au long des siècles, jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté l'état solennel prédit par Paul. En outre, comme nous l'avons vu, l'apôtre ne laisse aucun espoir de restauration du côté de la masse. Au contraire, il nous met en garde plusieurs fois que, le temps passant, il y aura un accroissement du mal. Non seulement les discours vains et profanes augmenteront, verset 16, mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, chapitre 3, verset 13. Et le temps viendra où la profession chrétienne ne supportera pas la saine doctrine et détournera ses oreilles de la vérité, chapitre 4, verset 3. Si, comme cela nous est montré, il n'y a aucune perspective de rétablissement pour la grande masse de la profession chrétienne, comment l'individu qui veut être fidèle au Seigneur doit-il agir? Cette question très sérieuse est reprise par l'apôtre qui y répond dans le passage important qui suit, un passage qui trace clairement le chemin de Dieu pour l'individu dans un jour de ruine. Notons d'abord qu'il ne nous est pas dit de quitter ce qui professe être la maison de Dieu sur la terre. Cela est impossible, à moins de quitter la terre ou d'apostasier. Nous ne devons pas abandonner la profession de christianisme au motif que, dans les mains des hommes, cette profession est devenue corrompue. En outre, il ne nous est pas dit de réformer la profession corrompue. La chrétienté dans son ensemble ne peut pas être réformée. Si toutefois nous n'avons pas à quitter la profession chrétienne, ni à chercher à réformer la masse, ni à nous installer tranquillement et donner notre approbation à la corruption en nous y associant, quelle est la voie à suivre? Après avoir consolé nos cœurs, l'apôtre se met à placer devant le croyant individuel le chemin dans lequel Dieu voudrait le voir marcher dans un jour de ruine. Nous pouvons être sûrs qu'aussi sombre que soit le jour, qu'aussi difficiles que soient les temps, qu'aussi grande que soit la corruption, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, une période de l'histoire de l'Église sur la terre où les hommes pieux sont laissés sans direction quant au chemin à suivre au milieu de la ruine. Dieu a prévu la ruine, et Dieu a pourvu dans sa parole pour un jour de ruine. Par manque d'exercice, nous pouvons manquer à discerner le chemin. Par manque de foi, nous pouvons répugner à le prendre. Néanmoins, le chemin de Dieu est tracé pour nous aussi clairement dans le jour le plus sombre que dans les jours les plus brillants. Si alors Dieu a tracé un chemin pour les siens dans un jour de ruine, il est évident que nous ne sommes pas laissés à concevoir un chemin pour nous-mêmes ou à faire simplement du mieux que nous pouvons. Notre rôle est de chercher à discerner le chemin de Dieu et à l'emprunter dans l'obéissance de la foi, tout en cherchant la grâce de Dieu pour nous y maintenir. La séparation du mal est la première étape dans le chemin de Dieu. Si je ne peux pas réformer les choses mauvaises de la chrétienté, je suis responsable d'être moi-même dans le droit chemin. Bien que je ne puisse pas abandonner la profession de christianisme, je peux bien me séparer de ce qui est mal dans la profession. Notons attentivement combien de fois, dans des termes différents et de différentes manières, il est insisté sur la séparation du mal dans l'Épître. L'apôtre dit « Évite les discours vains et profanes » verset 16. « Qu'il se retire de l'iniquité » verset 19. « Quelqu'un se purifie de ceci » des vases à déshonneur verset 21. « Fuis les convoitises de la jeunesse » verset 22. « Évite les questions folles et insensées » verset 23. « Détourne-toi de tels gens » chapitre 3 verset 5. Tout d'abord, il incombe à tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur de se retirer de l'iniquité. Nous ne devons pas associer le nom du Seigneur avec le mal sous aucune forme. La confusion et le désordre de la chrétienté sont devenus si grands que, d'un côté, nous pouvons facilement nous tromper en jugeant à tort que quelqu'un n'est pas au Seigneur, alors qu'au fond de son cœur il y a un vrai croyant. Or, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. D'autre part, celui qui confesse le Seigneur est responsable de se retirer de l'iniquité. S'il refuse de le faire, il ne peut pas se plaindre d'être mal jugé. Dans un jour de confusion, il ne suffit plus qu'une personne confesse le Seigneur. Sa confession doit être mise à l'épreuve. Le test est « Nous soumettons-nous à l'autorité du Seigneur en nous retirant de l'iniquité ? » Rester associé avec le mal et prononcer le nom du Seigneur, c'est associer son nom avec le mal. Deuxièmement, nous ne devons pas seulement nous séparer de l'iniquité, mais aussi des personnes associées avec le mal, appelées ici « vases à déshonneur ». L'apôtre utilise l'illustration d'une grande maison d'un homme du monde pour exposer la condition dans laquelle la chrétienté est tombée. Ce qui prend sur la terre la position d'être la maison de Dieu, au lieu d'être à part du monde et de faire contraste avec le monde, est devenu semblable au monde et aux maisons du monde, dans lesquelles il y a des vases de différents matériaux utilisés à des fins différentes, mais dans lesquels des vases à honneur peuvent se trouver en contact avec des vases à déshonneur. Si un vase doit être propre pour le service du maître, il ne doit pas être en contact avec un vase à déshonneur. Ainsi, dans l'application de cette illustration, le croyant qui voudrait être propre pour le service du Seigneur doit se purifier des vases à déshonneur. Il a été souligné que le seul autre endroit du Nouveau Testament où le mot traduit par « se purifier » est utilisé est 1 Corinthiens 5, verset 7, où l'assemblée des Corinthiens est enseignée à ôter le vieux levain. Quand l'assemblée était dans son état normal et qu'on trouvait au milieu d'elle quelqu'un commettant le mal, elle était enseignée à ôter du milieu d'elle la personne méchante. Ici, l'apôtre prévoit un temps où l'état de la masse professante serait si bas qu'il n'y aurait pas la puissance pour ôter celui qui a commis le mal. Dans une telle condition, quand toute remontrance selon Dieu est faite en vain, les hommes pieux sont enseignés à se séparer des vases à déshonneur. Le principe est le même dans les deux cas. Il ne doit pas y avoir d'association entre les hommes pieux et les impies. Pour refuser une telle association, dans un cas, l'état normal, l'assemblée doit ôter le vieux levain. Dans l'autre cas, quand il n'y a plus la puissance pour s'occuper du mal, Le vase à honneur doit se purifier des vases à déshonneur en se séparant d'eux. Quelqu'un a dit justement, si quelques-uns portent le nom du Seigneur, et sous le prétexte de l'unité, ou de l'amour de la facilité, ou par partialité envers leurs amis, tolèrent le mal que l'Écriture montre être odieux pour Dieu, un homme pieux n'a pas d'autre option que d'écouter la parole divine et de se purifier de ses vases à déshonneur. Ainsi, il est clair que nous devons cesser de faire le mal avant d'apprendre à faire le bien. Car ce n'est qu'en étant séparé du mal que quelqu'un devient sanctifié et propre au service du Maître et préparé pour toute bonne œuvre. La mesure de notre séparation sera la mesure de notre préparation. Quelqu'un a dit justement, « Dans tous les âges de l'Église, tout effort, même petit, pour obéir à cette injonction a eu sa récompense, qu'il a été fait par un ou par plusieurs. Et celui qui veut prendre la peine d'enquêter sur la vie de n'importe quel serviteur distingué du Seigneur ou compagnie de croyants distingués trouvera que la séparation du mal environnant a été l'une de leurs caractéristiques principales et que le service et l'honneur s'y trouvaient en proportion de cette séparation, mais qu'ils ont décliné jusqu'à disparaître quand cet élément clé du service a été négligé ou mis de côté. Pour sa consolation et son encouragement, celui qui agit sur la base de cette injonction est assuré qu'il ne sera pas seulement propre au service du Maître, mais qu'il sera un vase à honneur. Il peut avoir à rencontrer l'opprobre et même le mépris de ceux dont il se sépare, mais, dit l'apôtre, il sera un vase d'honneur. Ces versets montrent que la séparation a un double caractère. Tout d'abord, nous devons nous retirer de tout système où prévaut l'iniquité, et d'autre part, nous devons nous séparer des personnes déshonorables. Nous trouvons donc ici la justification pour l'individu de se séparer de tous ces grands systèmes des hommes qui mettent Christ de côté comme la seule tête, ou chef, de son corps, qui ignore la présence du Saint-Esprit, qui abandonne rapidement les vérités vitales du christianisme, dans lesquelles croyants et incroyants sont mêlés, et dans lesquelles il n'y a aucune puissance pour s'occuper du mal, ou qui admettent des principes rendant impossible de s'occuper du mal. L'instruction de se séparer du mal est suivie de l'injonction tout aussi importante « Fuis les convoitises de la jeunesse ». Après nous être séparés des corruptions de la chrétienté, nous devons veiller pour ne pas tomber dans les corruptions de la nature. Les convoitises de la jeunesse ne font pas seulement allusion aux désirs grossiers de la chair, mais aussi à toutes ces choses que la nature déchue désire avec la fougue irréfléchie et la volonté propre de la jeunesse. Nous ne sommes jamais plus en danger d'agir par la chair que lorsque nous avons agi dans la fidélité au Seigneur. Quelqu'un a dit, « Nous pouvons être séduits et attirés dans le relâchement moral par l'effet de la satisfaction de notre séparation ecclésiastique. Combien cette exhortation à fuir les convoitises de la jeunesse est donc de saison, suite à l'injonction de se retirer de l'iniquité et de se séparer des vases à déshonneur. Après nous être séparés des corruptions de la chrétienté et avoir refusé les corruptions de la nature, nous sommes exhortés à poursuivre certaines grandes qualités morales qui donnent un caractère positif au chemin à suivre. Il ne nous est pas dit de suivre quelque docteur éminent, même si nous devons reconnaître volontiers tous les dons dans la mesure où ils mènent sur le chemin tracé. Les qualités que nous devons poursuivre sont la justice, la foi, l'amour, la paix. La justice vient nécessairement en premier, car ici il s'agit du chemin individuel. Après nous être séparés de l'iniquité, nous avons à juger nos voies et à nous assurer que toutes nos relations pratiques sont en accord avec la justice, que ce soit nos voies en rapport avec le monde ou en rapport avec le peuple de Dieu. La foi vient ensuite et rétrécit encore plus le chemin, car la foi a affaire avec Dieu. Et ce ne sont pas toutes les voies justes qui sont des voies de foi. La justice pratique envers les hommes, dans le sens d'agir honnêtement l'un avec l'autre, peut exister sans foi en Dieu. Le chemin de Dieu, pour les siens à travers ce monde, exige un exercice constant de la foi dans le Dieu vivant. Nous avons non seulement besoin d'un chemin pour y marcher, mais nous avons besoin de foi pour marcher dans le chemin. L'amour vient ensuite. si nous sommes justes dans nos relations pratiques avec les autres, si nous marchons par la foi en Dieu, nos cœurs seront libres de s'approcher des autres en amour. La foi dans le Christ Jésus est suivie de l'amour pour tous les saints. Éphésiens 1, verset 15, Colossiens 1, verset 4. La paix vient en dernier, et c'est la place qui lui revient comme résultat de la justice, de la foi et de l'amour. La justice débute la liste, et la paix la termine, car le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Jacques 3, verset 18. À moins que nous soyons gardés par les qualités qui la précèdent, la poursuite de la paix peut dégénérer dans l'indifférence quant à Christ et l'acquiescement au mal. Ici, donc, nous avons des instructions claires pour notre chemin individuel dans un jour de ruine. Les instructions, cependant, ne cessent pas avec ces directions individuelles, car, à ce stade, l'apôtre passe de ce qui est individuel à ce qui est collectif. Il nous dit que ces qualités doivent être poursuivies avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les mots « avec ceux » introduisent clairement ce qui est collectif. Ceci est de la plus haute importance, car sans cette instruction, nous pourrions nous demander « quelle justification biblique avons-nous pour marcher avec d'autres dans un jour de ruine ?» Or, voici notre justification, nous ne sommes pas laissés dans l'isolement. Il y en aura toujours d'autres qui, dans un jour de ruine, invoqueront le Seigneur d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur est l'expression de dépendance du Seigneur et semble spécialement se rattacher à un jour marqué par l'éloignement du Seigneur. Dans les mauvais jours de Seth, nous lisons « Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Genèse 4, verset 26. De même aussi quand Abraham est sorti de son pays, de sa parenté et de la maison de son père, nous lisons qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Genèse 12, verset 9. Nous avons donc une compagnie qui, par fidélité au Seigneur, s'est séparée de la corruption de la chrétienté et, dans cette place au dehors, elle marche dans la dépendance du Seigneur et elle le fait car elle a un cœur pur. Un cœur pur n'est pas celui qui prétend être pur, mais plutôt celui qui, sous l'œil du Seigneur, poursuit la justice, la foi, l'amour et la paix. Ainsi, nous avons un chemin nettement balisé par la parole de Dieu pour un jour de ruine caractérisé, premièrement par la séparation d'avec les corruptions de la chrétienté, deuxièmement par la séparation d'avec les corruptions de la chair, troisièmement par la poursuite de certaines qualités morales, quatrièmement par l'association avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si quelques-uns se retrouvent ainsi ensemble, selon ces indications claires, la question peut se poser. Quels principes les guideront dans leur culte, dans le souvenir du Seigneur, dans leur réunion d'édification, dans leur service et dans leur manière de vivre l'un envers l'autre et envers le monde? La réponse est simple. Pour être dirigés, ils ont à leur disposition tous les principes pour l'ordre dans tous les détails de l'Assemblée de Dieu, tels que placés devant nous dans l'Épître aux Corinthiens et dans d'autres parties du Nouveau Testament. Des principes qu'aucune ruine dans l'Église ne peut mettre de côté. En outre, après s'être séparés des diverses sortes de mal de la chrétienté, ils trouveront que beaucoup de principes et de directions pour l'administration pratique de l'Église, qu'il n'était guère possible de réaliser dans les systèmes des hommes, peuvent maintenant être appliqués en simplicité. Ainsi, ceux qui acceptent le chemin de Dieu dans un jour de ruine verront qu'il est encore possible de marcher à la lumière de l'Assemblée comme elle a été constituée au commencement. Ils ne prétendront pas être l'Assemblée, ou même un modèle de l'Assemblée, car ils ne seront tout au plus que quelques individus qui se sont séparés des corruptions de la chrétienté, et donc, s'ils sont des témoins, c'est seulement des témoins à l'état de la ruine de l'Église dans ces jours de la fin, plutôt qu'un modèle de l'Église à ses débuts. Versets 23 à 26. L'esprit dans lequel il faut faire face à l'opposition. Citation de l'Écriture. Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable par qui ils ont été pris, pour faire sa volonté. » Fin de citation. Dans les derniers versets du chapitre, nous avons un avertissement important pour les serviteurs du Seigneur. En rapport avec ce chemin de séparation des corruptions de la chrétienté, l'apôtre prévoit qu'outre ceux qui obéiront à ses directives, il y aura aussi ceux qui s'y opposeront vigoureusement. L'affirmation de ces vérités produira une moisson de questions folles et insensées. L'expérience a montré combien cela est vrai. Presque tous les arguments que l'ingéniosité humaine peut suggérer ont été utilisés pour mettre de côté les instructions claires de ce passage. Nous sommes avertis que ces arguments engendreront des contestations. Quoi qu'il arrive, le serviteur du Seigneur ne doit pas être entraîné dans des contestations. Il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste. S'il se laisse entraîner dans des contestations, il peut se trouver complètement défait, même s'il se tient pour la vérité absolue. Le serviteur doit se rappeler qu'il est seulement le serviteur et non le maître. Comme serviteur du Seigneur, son affaire est de manifester le caractère du Seigneur. La douceur, l'aptitude à enseigner, la patience et la mansuétude en présence de l'opposition. La tendance naturelle est de défendre et s'accrocher à ce à quoi l'on est associé, même si c'est complètement contraire à l'Écriture. Ainsi, le premier effet de la présentation de ces vérités est souvent de soulever l'opposition. Il peut arriver que le serviteur ait à faire face lui-même à de l'opposition. Il lui convient alors d'avoir beaucoup de patience et une grande douceur en cherchant à instruire les autres. En présentant la vérité, il ne doit pas penser que c'est par sa présentation claire ou par la douceur de sa manière qu'il sera accepté, mais il doit plutôt avoir le sentiment qu'il n'y a que Dieu qui peut amener quelqu'un à reconnaître la vérité.